vous pouvez le réécouter sur internet à cette adresse françaisfacile.rfi.fr.
Radio G 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Mercredi, jour des enfants, comment ça va Nolwenn ?
Ça va, merci.
En vrai, ça fait maintenant 2 semaines que tu as rejoint l'équipe pour de bon en service civique. Comment ça se passe, petit point d'étape ?
Ça se passe super bien pour l'instant, ça va. Il n'y a pas eu trop de problèmes.
Flash info, reportage, tout un tas de choses. D'ailleurs, on te retrouve dans un reportage dans quelques instants. Nous, demain, on sera avec Loire-Authion, la commune de Loire-Authion, partenaire de l'émission. Et vous le savez, si c'est mercredi, ça veut dire qu'il y a déjà eu lundi et mardi. Donc déjà deux de nos émissions de la semaine qui sont en podcast sur le site radio-g.fr. Pour les écouter, l'émission s'appelle Topette. C'est annoncé dans le titre, mais je préfère repréciser ce soir... On va parler de hockey sur gazon. Oui, pour les puristes comme notre Charles National from the Québec, ça va grincer, mais pour les curieux, c'est l'occasion de découvrir la pratique. Nous sommes ce soir avec le président du SCO Hockey, Emmanuel Leray, accompagné de Jocelyn Lucas, qui est éducateur sportif au club, de Paul Leray, joueur, et de Antonin Perrault à la communication au SCO Hockey, toujours bien évidemment. Puis en seconde partie d'émission, on va un petit peu remonter dans le temps pour mener l'enquête 1920 avec la compagnie des passeurs de l'impalpable. Une partie de la compagnie, en tout cas Nico, qui est comédien, et Tim, musicien, guitare et voix. Petit live d'ailleurs de prévu, improvisé puisque c'est le concept. Et on va aussi retrouver au cours de cette émission la drôle de vie de Léona Graal pour le 2e épisode, ou encore le 7e épisode de la série de podcasts consacrée aux semaines d'information sur la santé mentale qu'on a reçue la semaine dernière. Topette, c'est parti jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, mercredi dernier était inauguré Arborescence, un projet immobilier d'envergure dans lequel nous emmène ce soir Nolwenn. Bravo !
Ça y est, après 3 ans de travaux, le projet Arborescence a enfin été inauguré. L'immeuble arbre, comme on l'appelle, culmine à 35 mètres de hauteur sur le quai Gambetta en bas du boulevard Hérault. Comme 5 autres projets, il a été lauréat en 2018 de l'appel à projet Imagine Angers. Sa construction avait ensuite débuté en juin 2021 pour s'achever en juin dernier. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, on retrouve une crèche de 24 berceaux qui ouvrira au début du mois prochain. Mais la résidence senior, elle, qui comprend 94 logements, a ouvert en juin dernier. Une 40aine de personnes y logent déjà. Piscine, restaurant, animation ou encore salon de coiffure, comptez tout de même 1 278 € en moyenne pour un T2. Éric Lapierre, le directeur d'Ovelia, gestionnaire de la résidence, nous expose le principal atout de cet immeuble.
C'est un bâtiment qui est à proximité des commerces, à proximité des transports en commun, et qui va permettre à nos résidents de vivre au sein de la ville, d'avoir accès à toutes les commodités et de continuer à avoir une vie active.
Tout comme la résidence senior, la crèche est apparue elle aussi dès le début du projet. L'intergénérationnalité, ce n'est pas simplement du marketing, comme nous l'explique le directeur.
On a pas mal de résidences où on accueille déjà des crèches. C'est quelque chose qui fonctionne. On s'aperçoit que pour nos seniors, le fait d'avoir cette crèche, ça va permettre d'avoir un contact avec des plus jeunes, et aux plus jeunes, d'avoir une centaine de grands-parents en proximité. Il y a de vrais échanges.
Que ce soit les seniors, les enfants ou les habitants des 29 appartements, presque tous vendus au-dessus de la résidence senior, tous pourront profiter de la verdure, plus de 1000 mètres carrés au total. 1 km de jardinières tiennent au bout des balcons, une véritable prouesse technique, comme nous l'explique Éric Bochery, directeur de Vinci Immobilier.
Cette opération est une construction assez rare qui a nécessité l'utilisation de techniques qu'on trouve plutôt dans les ouvrages d'art, comme le BIM, où on a fait une maquette 3D de l'opération, de sa structure, de ses façades, de l'intégralité des logements pour pouvoir travailler et la concevoir.
Des techniques hors normes pour un bâtiment hors normes ou exceptionnel, quand même le rappelait le directeur. Un seul appartement n'est pas encore vendu. Un T5 de 123 mètres carrés situé au dernier étage, affiché tout de même à 1,2 million d'euros.
Voilà, avis aux personnes qui cherchent un logement actuellement sur Angers. Merci beaucoup Nolwenn. Ce reportage est à retrouver, pareil, dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Restons dans la verdure, non plus avec arborescence, mais avec du hockey sur gazon.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonne. Je veux bien que tu passes le micro à Antonin, s'il te plaît. Bonsoir Antonin.
Bonsoir, merci de nous recevoir aujourd'hui.
Eh ben merci à toi Antonin d'être venu ce soir et aussi d'être venu accompagné puisque tu n'es pas venu tout seul pour représenter le SCO Hockey. Tu es venu avec son président, rien que ça. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à vous.
Emmanuel Leray qui est venu avec, je sais pas si on peut le dire, Fiston. Bonsoir Paul.
Tout à fait, bonsoir.
Paul qui est joueur au SCO Hockey. Sur gazon et également Jocelyn. Salut Jocelyn.
Salut, bonsoir.
Éducateur sportif, t'es le plus sportif de la bande, c'est ça?
Ouais, on va dire ça.
Tu peux le dire, c'est accepté. Le SCO, ok, on va en parler, on va présenter un petit peu le club, les différentes personnes qui gravitent autour, les différentes équipes. Peut-être qu'il y a des versions masculines et des versions féminines, je ne sais pas du tout. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on repose les bases, le hockey sur gazon. Qu'est-ce que c'est? J'ai appris juste avant qu'on démarre l'émission là ce soir que c'était même plus du gazon. Alors je sais pas si monsieur le président souhaite nous expliquer un petit peu les bases de ce sport. Ok, alors, sur gazon.
Les bases du sport, on va se rapprocher un petit peu du football. C'est un sport, donc c'est l'un des premiers sports olympiques collectifs. Et ça ressemble un peu au foot, puisqu'on joue 11 contre 11. Initialement, c'était sur un terrain gazon, mais maintenant, c'est sur un terrain synthétique qui a évolué du terrain synthétique sablé, et maintenant, qui est un terrain synthétique, ça a mouillé. C'est la grande évolution qui est une évolution sans en être une, puisqu'en fait, il y en a de moins en moins de avant, on jouait sur les terrains gazon et on profitait de toutes les infrastructures du football pour avoir notre support de jeu. Là, on a une spécificité imposée par la Fédération internationale de hockey pour jouer sur un terrain, une surface synthétique.
Alors on sait que le football est très plébiscité, c'est le sport national dans beaucoup de pays parce que c'est avec des règles très simples. Est-ce que le hockey, on est sur des règles aussi simples pour celles et ceux qui connaissent le hockey sur glace? Par exemple, je vois Paul qui dit bof bof de la tête. Apparemment, faut avoir peut-être une première approche.
Ben il faut voir que le hockey reste quand même un sport qui a un peu plus de règles qui sont plus ou moins spécifiques. Bon voilà, on a ces genres de sport où on n'a pas le droit de jeter nos pieds par exemple. Voilà, on a un côté particulier sur lequel on peut manipuler la balle, donc sur notre crosse là, on a un côté plat et un côté rond. Donc voilà, il y a quand même un peu plus de spécificité. On a des phases de jeu où voilà, c'est des coups arrêtés qui sont pas forcément compréhensibles. Il n'y a pas du tout de lien commun en fait avec d'autres sports. C'est vraiment propre à notre sport. Voilà.
T'es quel poste toi, Paul?
Alors moi, je joue milieu de terrain, milieu centre bas, voilà, sur le jeu. Donc l'objectif, c'est un poste où on doit distribuer les balles et faire monter l'équipe jusqu'au but, voilà.
Si on reste sur un parallèle footballistique, comme disait Emmanuel, on a à peu près les mêmes postes aussi, des défenseurs, un milieu de terrain, puis des attaquants.
Tout à fait, on est sur les mêmes schémas de jeu au hockey sur gazon. Voilà, des 4-3-3, 4-4-2, voilà, c'est des systèmes de jeu qui sont vraiment similaires au football. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on joue sans enjeu, donc on va dire une fluidité de jeu un peu plus importante, une intensité plus importante, qui est bon, un point différent par rapport au football ou voilà.
Justement, c'est ce que je voulais aborder, l'intensité, puisque j'ai eu l'occasion de voir cet été, grâce au JO, à quoi ça ressemblait. C'est vrai que, bon, ok, on court un peu comme au foot, encore une fois, mais là, avec la crosse, je me tourne vers l'éducateur sportif, Jocelyn, en termes d'intensité. Est-ce que le cardio travaille un petit peu plus en hockey sur gazon?
Alors, ça dépend des catégories d'âge, mais oui, c'est un sport qui demande quand même beaucoup de cardio. Le terrain est quand même assez grand, comme un terrain de foot à peu près. Donc oui, ça demande d'avoir des bonnes batteries.
Et pareil en termes au niveau des mouvements, de l'articulation, parce que courir avec la crosse comme ça, contrairement au hockey sur glace où on glisse, hein, bien évidemment, j'imagine que c'est une difficulté supplémentaire. Ça doit nécessiter d'avoir quelques précautions au niveau des articulations.
Oui, au niveau des articulations, mais c'est surtout qu'il y a une prise de crosse particulière à avoir et stricte, on va dire. Et du coup, ça demande quelques motricités, quelques habiletés assez pointues sur les articulations.
J'ai un doute, Emmanuel, si tu as répondu à cette question tout à l'heure quand je te l'ai posée, par rapport au hockey sur glace, le hockey sur gazon est venu après ou avant?
Alors, c'est très intéressant parce que chez les Égyptiens, on a des traces du hockey sur gazon. Je suis pas sûr qu'ils avaient de la glace encore avec tout ton camion.
Non, c'est sûr que c'est pas en Égypte qu'il y a le plus de glace. Donc ça veut dire que le hockey sur gazon aurait pu arriver avant le hockey sur glace.
C'est ça, ouais. On trouve des cartouches en Égypte, effectivement, de l'ancêtre du hockey sur gazon.
Et si on parle maintenant à l'échelle nationale de ce sport en France, on est classé comment là au JO? On a fait quoi par exemple?
Alors c'est une question un peu, c'est vraiment une patate chaude parce qu'en fait on n'a pas du tout performé. Je pense qu'on est arrivé dernier de chacune de nos poules, que ce soit féminin ou masculin. Ceci dit, les filles ont fait de super belles prestations. On a pêché, on a fait qu'un match nul contre l'Espagne et le reste on a perdu.
Bon, on va continuer à explorer les méandres de ce sport qu'on découvre, et c'est peut-être d'ailleurs les gros bénéfices aussi des Jeux Olympiques, peut-être qu'il y a eu plus de licenciés en début de saison pour le SCO hockey. Emmanuel, je crois que tu as la réponse.
J'ai la réponse, on était en réunion de ligue récemment et tous les clubs de la région ont dit que globalement, non, on n'a pas eu de retour. Pas eu de retour, c'est ça, c'était magnifique. Moi j'ai vécu aussi, j'ai vu les matchs des Jeux Olympiques, ceci dit, non, on n'a pas de retour.
Petite question, Nolwenn, est-ce que tu connaissais le hockey sur gazon? Est-ce que tu as eu l'occasion de voir à quoi ça ressemblait, toi?
J'ai jamais pu voir à quoi ça ressemblait, ça m'intrigue vraiment. Mais ça a l'air d'être sympa.
Jocelyn, on est... pas rester frustré comme ça.
Oui, voilà, on est d'accord que c'est un sport qui est autant masculin que féminin. Hein.
Oui, c'est un sport qui est complètement mixte. Sur les catégories des plus jeunes, par exemple, on mixe les garçons et filles. Après, quand on monte de niveau, là, on sépare, on fait des équipes garçons et des équipes filles, comme dans tous les sports.
Bon, en tout cas, si on a commencé à titiller votre curiosité et que vous souhaitez en découvrir un petit peu plus, restez avec nous puisque nous allons parler du SCO Hockey, le club ici à Angers, hockey sur gazon, précisons. Juste avant, on fait un petit détour par notre série de podcasts qui a cours en ce moment, les SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Et ce soir, on part avec Cathy, le mouvement par la danse, on reste dans le mouvement.
Chaque mouvement est une expression, certains en font une passion. Bonjour à tous, je m'appelle Cathy Dersoir et je suis actuellement en formation assistante de service social à la RIFT. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la danse. Afin de mélanger les regards, je vais vous parler d'une professeure de danse en milieu ordinaire et d'une professeure de danse travaillant aux côtés de personnes dans le besoin afin de rompre l'isolement. Pour ce qui est de la professeure de danse en milieu ordinaire, Gwenaëlle Bureau, celle-ci définit la santé mentale comme un état qui peut jouer sur la santé mentale et physique. Ainsi, pour elle, lorsqu'on est bien dans sa tête, on l'est dans son corps. La danse permet de se sentir bien, de s'exprimer à travers des mouvements, si nous ne pouvons pas le dire avec des mots. Cela aide aussi à vaincre la timidité de certaines personnes, de s'évader et de s'épanouir à travers la réussite. S'entraîner permet de dépasser ses limites, de se redonner confiance, de travailler sa mémoire, ainsi que le contact à l'autre. Concernant la deuxième professeure de danse, Élise Lériot, elle a travaillé dans différentes structures accueillant seulement des femmes. Au sein de ses cours de danse, elle accueille tant bien des femmes en situation de précarité que des adolescents atteints de polyhandicap ou encore des personnes atteintes d'handicap physique ou psychique. Sa volonté est de travailler la confiance en soi, l'estime de soi et le lâcher prise de ses élèves. Ses groupes de danse sont nés de sa passion pour la danse et de son désir d'accompagner des personnes en souffrance, se sentant seule et parfois abandonnée. La cohésion de groupe permet de travailler la confiance en soi grâce à l'autre et envers l'autre. Cette cohésion est travaillée dans ces cours de Lady Dance, où l'objectif est de travailler la confiance, l'estime de soi et le développement personnel. Pour cela, elle accompagne les femmes au lâcher prise, à faire ressortir leurs émotions et à la possibilité d'échanger à la fin du cours. Elle a également développé le programme Éclore, qui est individuel et adressé à tout public sur 3 mois, avec pour finalité la création d'un clip vidéo. Ce sont ses élèves qui choisissent la musique qui leur procure des émotions afin de permettre de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Danse ton corps est une association pour le public précaire. Au sein de celle-ci découlent plusieurs activités, telles que la danse pour tous, qui a pour objectif de travailler l'estime de soi, la confiance en soi et de faire une activité pour soi en ne pensant qu'à soi. Les adultes apprennent à prendre 10 minutes par jour pour s'occuper d'elles-mêmes. Aussi, ce groupe permet de créer un lien fort et un sentiment d'appartenance pour certaines femmes qui peuvent être bloquées dans leur quotidien. Enfin, Surpass Yourself est un programme de 5 mois ayant pour but la création d'un clip vidéo Que ce soit pour un but de loisir ou thérapeutique, la danse permet toujours de se sentir mieux. Pour pouvoir avoir plus d'informations sur Élise, nous pouvons la contacter via ses réseaux sociaux.
L'ensemble des podcasts sur les semaines d'information sur la santé mentale sont à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Ça s'appelle SISM 49. Nous retournons sur le terrain, non plus en gazon, mais en synthétique, il me semble. On est toujours à parler du SCO hockey sur gazon. Parce que oui, c'est vrai qu'Angers a la chance quand même d'avoir une équipe de hockey qui fait sa renommée. Et justement, si on fait le parallèle entre glace et hockey, imaginons que des personnes jouent au hockey sur glace. Paul, toi qui es joueur, tu es défenseur, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, plutôt ailier.
Milieu de terrain.
Milieu de terrain. Est-ce qu'on peut passer facilement d'une discipline à l'autre où il y a vraiment des spécialités, des spécifications
Alors, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai fait l'expérience justement, étant plus jeune, de faire un petit peu d'initiation au hockey sur glace. Mais en même temps, bon, j'étais licencié quand même au SCO hockey Angers. Là. Et effectivement, bon, il y a quand même des technicités qui s'en rapprochent. Bon, la grosse différence, c'est qu'au hockey sur glace, on peut utiliser les deux côtés de la crosse, alors que nous, on a vraiment un seul côté. Donc, voilà, on a la nécessité, en fait, de faire tourner notre crosse, à la différence du hockey sur glace, où, en fait, on reste sur la même position. Après, voilà, le terrain est quand même beaucoup plus concentré sur le hockey sur glace, et je dirais que il y a aussi des faits de jeu, le contact est très présent au hockey sur glace, ce qui n'est pas trop le cas au hockey sur gazon, hein, il faut le comprendre, on est plus sur un jeu vraiment, on laisse place en fait à la technicité et moins en fait au contact, donc on est beaucoup moins sur le spectacle entre guillemets, le spectacle on le donne beaucoup plus sur la partie technique, voilà.
Jocelyn, effectivement, il y a même en termes de préparation physique aussi, il y a des grosses différences entre les deux disciplines.
Moi, je ne m'y connais pas trop en hockey sur glace, mais oui, de toute façon, bah déjà en hockey sur glace, faut savoir patiner, alors qu'en hockey sur gazon, faut juste savoir courir. Donc, je pense.
A priori, on sait plus facilement courir que patiner.
Pense, c'est ouais. Plus dans la norme des gens, mais oui, je pense que après les deux sports ont leurs spécificités physiques qui leur sont propres, mais voilà. Comme moi, après, déjà le hockey sur gazon, je ne connaissais pas trop avant un mois. Vu que je venais du basket, le hockey sur glace encore moins, mais c'est deux sports qui, on va dire, dans les règles, ont des aspects qui se ressemblent, mais dans leur jeu sont quand même assez totalement différents.
Ouais, donc c'est un vrai autre sport à part entière, bien évidemment. Emmanuel, le président du SCO hockey, si on présente maintenant un petit peu ce hockey sur gazon, précisons encore une fois, si on présente le club, alors déjà c'est un club amateur, on n'est pas sur un registre professionnel ou semi-pro peut-être ?
Non, il n'y a aucun joueur qui est payé, c'est un sport amateur. En France, c'est un sport amateur. Il y a quelques potentiels très 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 bons joueurs qui ont fait les Jeux Olympiques, qui ont joué avec des contrats un peu qu'on peut avoir avec au rugby où il y a le club qui offre un job et puis il joue à la maison au club. On avait peut-être ça effectivement en Belgique parce que la majeure partie de l'équipe nationale masculine prioritairement jouait en Belgique et ils avaient des contrats semi-pro. Mais en France, non, c'est purement amateur.
Et ici à Angers, alors on a combien d'équipes au SCO hockey sur gazon ?
Alors on a une équipe qui joue en N1, l'équivalent de la Ligue 2 par rapport au football, toujours pour faire l'analogie, hein, parce que le hockey sur gazon c'est pas forcément connu. C'est quand même le troisième sport mondial, parce que c'est quand même un sport du Commonwealth, donc c'est quand même le troisième sport mondial en termes de licenciés. Nous, chez nous, on a donc une équipe qui joue en N1, l'équivalent de la Ligue 2. On a une équipe féminine qui joue en National 2. Et on a donc une équipe qui joue en régional, on a une équipe U14, une équipe U12, on a des petits qui jouent dans les différents plateaux, etc.
Et sur le territoire à Angers, dans le Maine-et-Loire, on a que vous en fait pour
Alors
cette
on a,
discipline
on a deux, on a trois clubs. Un tout petit club qui en fait qui est une antenne du SCO à Lavambrol-sur-Longnay. Et ensuite on a le club de Segré qui a bénéficié récemment d'un des trois supports de jeu du stade Is du Manoir, là où il y a les Jeux Olympiques qui ont eu lieu.
Okay,
parce que leur terrain était un peu obsolète, donc ils ont suivi une procédure administrative lourde et ils ont gagné. C'est bien, c'est super pour le hockey local.
Donc c'est chouette. Ça veut dire que même en milieu rural, on peut quand même s'initier à ce beau sport. Paul, juste toi, tu y as commencé il y a combien de temps maintenant le
ça fait quasiment là, ça fait 19 ans. Même maintenant, enfin ouais, quasiment 20 ans ouais, que je fais du hockey. Voilà.
Et pour parler de l'histoire du SCO hockey, Emmanuel, c'est globalement tout le SCO, ça fait la grosse asso et puis
alors le SCO c'est 1919, la structure même, et puis c'est donc originellement c'est un sport omnisport et il y avait des sections et donc la section du hockey sur gazon est née en 1921.
Ah oui,
donc c'est quand même on n'est pas tout jeune Et donc j'ai pris le bébé en 2020 j'espère faire assurer la pérennité du club longtemps.
On l'espère aussi. Antonin, justement, comment on pérennise un club, la vie d'un club, c'est par les pratiquants, les pratiquantes. Et justement, si on veut s'essayer, si on veut découvrir, est-ce qu'on peut assister aux entraînements? Est-ce qu'on peut vous découvrir sur les réseaux sociaux, peut-être, un site internet?
Oui, bah bien sûr, il y a le site internet du club. On a également le réseau Instagram, on a le Facebook du club. Et puis le LinkedIn qui est en train de se développer, notamment dans la recherche de partenaires. Et puis après, concernant ceux qui veulent s'essayer, parce que c'est à essayer, hein. Et on a les entraînements qui sont ouverts à tous. Les entraînements sont pas payants, ils sont ouverts à tous. Tout le monde peut venir s'essayer en fonction des différents horaires. C'est noté notamment sur le compte Instagram du club. Et puis pour les vacances de la Toussaint qui arrivent bientôt, on a un stage pour les jeunes de 6 à 14 ans s'ils veulent s'essayer. Donc toute la semaine, il y a des activités, notamment par Jocelyn qui encadre tout ça. Donc, s'il y en a qui veulent, c'est avec grand plaisir.
Ouais, c'est le moment de se lancer. Géographiquement, il est où le terrain sur Angers?
Au stade du Lac de Maine, le long de la quatre voies, sur le grand stade où il y a eu les championnats de France d'athlétisme. C'est un superbe parc bien achalandé pour le sport.
Des événements à venir aussi, Antonin, sur le 24 octobre, d'un mot, il y a un gros événement aussi pour vous.
Oui, le 24 octobre, c'est l'événement WH, nous. C'est un événement. Oui, ça mêle le hockey et le handicap, avec notamment Stéphane Paré, qui est le responsable handicap du club et qui organise un événement avec des IME de la région. Donc, c'est des jeunes qui viennent s'essayer au hockey et ça leur permet de passer une bonne journée et d'apprendre le hockey tout en s'amusant.
Voilà, et puis toutes les infos pratiques pour découvrir le SCO hockey sur gazon, on les redonne en fin d'émission. Vous restez avec nous, bien évidemment, Paul, Emmanuel, Jocelyn et Antonin. On va faire un petit détour par la drôle de vie de Léon Agral et juste après, on accueille une petite partie de la compagnie des passeurs de la... Je vais reprendre ma feuille pour le lire, mais ils arrivent, il y a Tim et Nico qui se préparent, il y aura même un petit live improvisé. Restez avec nous sur le 101.5 FM.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Imaginez si on interviewait aujourd'hui des chanteurs disparus. Qu'est-ce que ça pourrait donner ?
Bonsoir, bienvenue dans l'émission Nos chanteurs décédés favoris. Ce soir, un invité très dynamique. Il déborde tellement d'énergie que même Jim Carrey, qui était alors en plein tournage du film The Mask, a dit de lui:
oh my god, this man is too energetic!
Motherfucking fuck fuck motherfuck motherfucking motherfucking fucking fucking motherfucking motherfucking fucking fuck motherfucking fucking fuck. Je vous demande d'accueillir Monsieur Georges Moustakouille.
Bonsoir.
Bienvenue parmi nous.
En passant, mon nom c'est Moustaki.
Très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau, Monsieur Moustaki. Merci d'avoir ressuscité pour l'occasion.
Je vous en prie, merci à vous de m'accueillir.
Mais de rien.
Je suis vraiment très heureux.
Ah bah écoutez.
Ça me fait vraiment plaisir.
Tant mieux.
Je déborde de joie.
Eh bien.
J'aime la vie.
Oulala, ne gaspillez pas toute votre bonne humeur. Vous avez une joie de vivre tellement contagieuse que tout le public va se jeter sous un bus en sortant du studio.
Oups, désolé.
Alors rapidement, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas.
C'est-à-dire tout le monde.
Oui voilà, exactement. On vous présente généralement comme un chanteur qu'on pourrait qualifier de très enthousiaste.
Effectivement, je suis quelqu'un d'assez hyperactif.
Si je peux me permettre, vous êtes même un sacré foufou.
Oui, je suis un vrai petit bout en train.
Je dirais même complètement déglingué de la tête.
Tout à fait.
Et cependant, Georges, certaines personnes ont osé dire de vous que même vivant, vous aviez la réactivité d'un cadavre. Qu'est-ce que vous aimeriez leur répondre ?
Eh oh, ça c'est de la mauvaise foi, hein.
Alors calmez-vous par contre.
Désolé, je me suis emporté.
Espèce de taré.
Pardon.
Vous dites que c'est de la mauvaise foi.
Mais oui, les gens disent ça uniquement à cause de mon gros tube.
Quel est le rapport avec votre sexe ?
Non, je veux dire mon tube dans le sens de chanson.
Ah oui, votre chanson succès qui s'appelle d'ailleurs Le Cadavre, je crois.
Oui, exactement.
On en écoute un extrait de suite.
Avec ma gueule de cadavre, de mort vivant, bourré de larves et mes cheveux tout répugnants.
Mais c'est extraordinaire, Georges! Formidable! Fantastique!
Merci.
C'est une véritable performance artistique! Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à chanter en dormant?
Ah non, mais j'ai été éveillé, là.
Non, vous plaisantez.
Je vous jure que c'est vrai.
Mais alors, pourquoi vous chantez comme si vous étiez un paresseux de 90 ans sous morphine?
Comment ça?
Non, mais c'est vrai. Même une limace écrasée sur l'autoroute par 450 semi-remorques entièrement chargées aurait plus de voix.
Vous exagérez.
Ah, est-ce que c'est parce que vous fumez de l'herbe que vous êtes tout le temps défoncé comme ça?
Alors non, je ne fume rien du tout, je suis comme ça au naturel.
Vous n'avez jamais fumé?
Jamais de la vie.
Aucune drogue, jamais?
Jamais. À part de la cocaïne, de l'héroïne, de la kétamine, de l'amphétamine, du crack, du speed, de l'ecstasy, du LSD, du GHB, du PCP et quelques champignons hallucinogènes.
D'accord.
Mais à part ça, rien du tout. Je suis parfaitement clean.
Très bien. Alors, dernière question, monsieur Mouskipic.
Oui.
Pourquoi avez-vous une barbe aussi longue? Ah, est-ce que c'est un manque de goût volontaire ou bien vous avez cassé votre tondeuse électrique?
Écoutez, ma barbe n'est pas longue à ce point-là.
Voilà, ça va ?
Autant pour moi, je me suis entravé dans ma barbe.
L'émission touche à sa fin, merci d'être venu, Georges.
Attendez, je peux vous chanter une dernière chanson ?
Non, on n'a plus le temps, là.
Allez, très rapidement, je vous la fais a cappella.
Non, écoutez, je suis désolé, mais...
Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre.
Merci beaucoup, Georges.
Il brillait au soleil comme un fruit défendu.
Très bien, merci, on va s'arrêter là.
Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer.
Voilà, c'était Georges Moustache.
Ni rien de déjà vu ou déjà entendu.
Allez, s'il vous plaît.
La la la.
Eh, hey, wow.
La la la.
Non, mais tu vas la fermer, oui.
La la la.
C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.
La drôle de vie.
La drôle de vie de Léona Graal, une semaine sur deux dans Topette. Topette qui continue avec notre deuxième sujet de la soirée.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Du gazon aux planches, il n'y a qu'un pas qu'on vient de franchir ce soir sur le 101.5 FM. Nous sommes avec Nico. Salut Nico.
Salut.
Comédien au sein de la compagnie Les Passeurs de l'Impalpable. Et contrairement à ce que j'annonçais tout à l'heure, ce n'est pas Tim, mais bien Louis Alphonse qui est avec nous. Bonsoir Louis Alphonse.
Bonsoir.
Musicien au sein de cette même compagnie. On va parler ensemble de l'enquête 1920. Alors pour la date qui nous intéresse, c'est le 17, c'est demain, tout simplement, à la salle Claude Chabrol. Une pièce de théâtre totalement improvisée, musique comprise. Et peut-être qu'on va avoir un petit aperçu dans quelques instants. Je vois qu'on prend des notes, je vois que la guitare, on s'est chauffé pendant la drôle de vie de Léo. Une enquête en direct pendant 1h15 improvisée. Mais malgré toute l'improvisation qu'on peut mettre en place sur scène, il faut anticiper tout ça. Comment ça marche? Qu'est-ce qui cadre tout ça? C'est quoi l'intrigue de base, Nico?
Alors, pour commencer, en fait, l'enquête 1920 est entièrement improvisée, vraiment de A à Z. Et pour que le public puisse participer à ce spectacle et à cette enquête, on va lui demander d'aller sélectionner parmi les 6 comédiens et comédiennes qui sont sur scène, une personne qui va jouer l'inspecteur ou l'inspectrice. Et cet inspecteur-inspectrice sort de la salle et est surveillé par un spectateur pour pas qu'il entende la suite. Et donc par la suite, le public va choisir parmi les 6 comédiens qui restent qui sera la victime, quelle est l'arme du crime, où est-ce qu'on a trouvé le corps, son métier, et qui sera l'assassin.
C'est un cluedo géant d'une certaine
c'est
façon.
C'est une sorte de cluedo géant. On va même se rapprocher de l'inspecteur Columbo, parce qu'en fait, la seule personne qui connaît pas qui est le meurtrier, c'est Columbo. Donc là, c'est l'inspecteur dans la soirée. Et ensuite, l'inspecteur est accueilli dans un petit village dans les années 20 où a eu lieu ce meurtre. Il vient de la grande ville, il connaît pas le village. Et les 5 autres comédiens qui sont restés sur scène vont jouer le village. Donc on va l'accueillir et on va essayer de le faire découvrir ce village. Et lui, eh ben, il va avoir une heure et quart pour trouver qui est l'assassin et le faire avouer.
Donc on a à peu près tout le temps les mêmes personnages, mais ce ne sont jamais les mêmes comédiens et comédiennes qui les incarnent.
Jamais les mêmes personnages.
Alors, c'est tout le temps, c'est des nouveaux.
À part l'inspecteur, c'est le seul personnage récurrent.
Voilà, l'inspecteur est le personnage récurrent. Chaque comédien peut jouer le même inspecteur s'il en a envie. Il pourra jouer d'autres inspecteurs ou inspectrices s'il en a envie. Et après, les personnages, on va dire que ce sont les mêmes personnages type, ça veut dire qu'on va peut-être retrouver un maire, on va peut-être retrouver un curé, on va peut-être retrouver un boulanger, mais ça sera jamais le même boulanger, jamais le même maire, et ça sera jamais joué par les mêmes comédiens. C'est suivant comment avance la pièce. Si l'inspecteur a besoin d'aller voir telle ou telle personne dans le village, et ben on va automatiquement créer ces personnages-là en direct sur scène, et l'interaction se fait totalement improvisée.
En tout cas, ça reste le même village à chaque fois. La mise en scène est
pas du tout.
Il y a tout change à chaque fois.
Des fois, l'inspecteur il se trompe aussi. Il trouve pas l'assassin. Donc
vous-même, vous ne savez pas comment ça va se finir la soirée.
Exactement. L'inspecteur pourrait ne pas trouver l'assassin. Le nom du village est improvisé au moment de l'entrée de l'inspecteur. Donc tout est vraiment improvisé de A à Z.
Normalement, ça se termine par les aveux quand même. Sauf que s'il se trompe d'assassin, les aveux, c'est un peu compliqué.
Bon, en tout cas, quand je parlais de la mise en scène sur le village, il y a des éléments de décor sur le plateau ou pas?
Alors, sur le plateau, on a juste quelques décors juste pour annoncer le fait qu'on est dans les années 20. Donc, on va avoir quelques éléments de décor, des petits objets, ce genre de choses. On va avoir du vêtement rapide à mettre, du chapeau, des petits accessoires. Mais on a zéro décor sur scène. Donc, tout le décor est fait en description et donc c'est fait en improvisation aussi.
C'est presque du théâtre de rue, mais sur les planches, d'une certaine façon.
C'est un peu ça. Après, l'improvisation, la base de l'improvisation, c'est de réussir à faire vivre dans la tête des gens quelque chose qui n'existe pas et qu'on est en train de créer devant leurs yeux. Donc en fait, on est en train de faire l'écriture du spectacle, la mise en scène du spectacle, le décor du spectacle. On fait tout ça en même temps que le spectateur découvre la pièce.
Y compris la musique, Louis-Alphonse.
Tout à fait.
C'est-à-dire, comment ça, on improvise la musique? Il n'y a pas de paroles? C'est plus simple d'improviser sans paroles?
J'ai quelques chansons, mais que j'improvise pas trop les chansons, parce que je suis pas un improvisateur de paroles. Mais par contre, tout le banc de son, sur scène, j'ai un piano, une guitare. Et donc, tout le banc de son, je regarde ce qui se passe sur scène, je change l'ambiance, je change le couleur derrière tout ça, et ça donne vraiment une autre dimension. Des fois, si je m'ennuie parce qu'ils sont en train de patauger un peu dans quelque chose, je vais peut-être changer un peu le rythme, essayer de les pousser, accélérer. Donc je joue un peu comme un comédien aussi.
C'est ça. En fait, c'est le septième comédien sur scène. Il est là pour aussi nous amener à des endroits, nous amener des émotions et le public. En fait, sur chacune de nos pièces même, les passeurs de l'impalpable, ce qu'on veut proposer, c'est systématiquement une histoire qui dure une heure et quart, plutôt que plein de petites improvisations comme on peut voir en match d'impro ou en cabaret. Nous, l'idée, c'est d'aller proposer une pièce de théâtre, une vraie pièce de théâtre, sauf qu'elle est complètement improvisée. Et en musique, ce qui donne une ambiance très particulière et très agréable pour suivre l'ensemble de l'histoire. Et on va essayer de passer par toutes les émotions. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de l'humour, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des moments un peu étranges. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de faire comme si on avait écrit cette pièce-là et que le public le découvre avec nous, en fait.
On arrive à faire pleurer les gens, des fois.
On arrive.
Alors, est-ce qu'on pourrait, non, peut-être pas les faire pleurer maintenant, mais on m'a promis qu'on pourrait avoir un extrait de musical avec toi, Louis-Alphonse. Nicolas, je te voyais aussi noter des choses. Je sais pas si tu vas la mettre par-dessus.
Mes notes, c'est pour toutes les dates à venir.
C'est pour tout à l'heure, d'accord. Bon, on part en impro, enfin, on part en musique, en tout cas, avec toi, Louis-Alphonse.
Je vais chanter la chanson que j'ai écrite pour le Nemesis, qui est une autre pièce.
C'est notre première pièce de théâtre.
C'est parti, sur le 101.5 FM.
Venez, les amis. Nous allons faire un tour sur les eaux mystérieuses de l'impalpable. Vous avez sûrement entendu parler des histoires de notre bateau formidable. Alors levez vos têtes et reniflez le vent. Vous le sentez, ce parfum sur le brise. C'est le parfum de la justice divine qu'administre l'équipage du bateau, même si ce... Vous voulez encore?
Oui.
Hey.
Venez les amis, si vous n'en pouvez plus supporter la crime et la guerre, qu'à loin de la rive, nous allons revivre toutes ces histoires d'une autre manière. Alors levez vos têtes et reniflez l'avant. Vous le sentez, ce parfum sur le brise. C'est le parfum de la justice divine qu'administre l'équipage du bateau Nemesis. Il y a encore 53
couplets.
Vers, mais je vais pas.
Non, on va s'arrêter là. On peut t'applaudir, Louis-Alphonse, sur 101.5 FM de la compagnie des passeurs de l'impalpable. Alors là, c'était extrait de Némésis. C'est ça, une autre pièce.
Alors, c'est effectivement la toute première pièce qu'on a créée au sein des passeurs. C'était il y a plus de 3 ans.
En improvisation aussi.
En improvisation totale. On n'est que 2 comédiens sur scène avec le musicien en plus. Et c'est totalement improvisé de A à Z. L'histoire de 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et de cette rencontre va naître un désastre. On va le rejouer à Beaucouzé le 3 mars. Ce spectacle-là. Donc c'est avec plaisir qu'on va retrouver notre premier spectacle.
Nico, Louis-Alphonse, il faut nous expliquer un petit peu du coup la compagnie des passeurs de l'impalpable. Qui sont ces personnes? Qui êtes-vous en fait? Vous êtes combien dans toute cette troupe-là? Et c'est quoi le délire autour de l'impro?
Alors la création de la troupe, c'est nous 3 avec Tim, moi-même et Frédéric qui n'est pas là. Mais Fred et moi, nous sommes improvisateurs depuis presque 20 ans. Tim est un de mes grands amis.
Louis-Alphonse.
Non, alors moi j'ai rencontré Tim aujourd'hui, c'est Louis-Alphonse.
C'est mon alter ego.
Ah oui, c'est ça, exactement. D'accord. Donc j'ai présenté à Fred et on a créé cette troupe vraiment dans l'idée de créer Némésis. Vraiment, c'était vraiment pour ce spectacle-là qu'on a créé cette troupe-là. Il y a plus de 3 ans et aujourd'hui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qu'on a envie de proposer aux spectateurs, c'est des spectacles où le public va pouvoir rentrer entièrement dans cette histoire-là, quoi.
Les passeurs de l'impalpable, c'est quoi ce nom? C'est juste pour vous échauffer vocalement avant de monter sur scène?
Oh, quand on est comme tous les troupes, on a passé du temps à chercher un nom. Donc, je pense que le moment qu'on a tombé sur les passeurs de l'impalpable, malgré le fait que j'avais beaucoup de mal à le dire.
Encore aujourd'hui.
Oh, ça va. Hein.
Ne vous engueulez pas, ils sont en train d'improviser une engueulade.
Ça, c'est ça.
La compagnie des passeurs de l'impalpable.
Ouais, bon, on aime bien le nom. Je trouve que ça évoque quand même quelque chose de sympa et c'est important par rapport à ce qu'on fait, je pense.
Nico? Oui, voilà, c'est ça. Le je sais plus si on appelle ça une allitération. Enfin, je sais plus le fait d'avoir tous ces p qui traînent, mais surtout de l'idée de voilà, l'impalpable, c'est les histoires, c'est tout ce qu'on va pouvoir imaginer. Et comme en improvisation, rien n'est palpable puisqu'on n'a ni texte ni décor, rien du tout. Donc c'était vraiment l'idée de transposer ça dans ce nom-là qui est venu comme ça sur un brainstorming. Voilà, donc c'était vraiment cette idée-là.
L'enquête 1920, c'est demain à 17h, non pas 17h10, mais le 17 octobre. Mmh. C'est à quelle heure la salle Claude Chabrol, Louis Alphonse ou Nico, peu importe.
Bah, moi je sais pas, moi je vais être là à partir de midi.
Ah oui.
Nico, je pense qu'il a les détails. 20h, non?
Le spectacle doit commencer à 20h, donc il faut y être un peu avant pour la billetterie. C'est la première fois qu'on va faire une salle de 300 places, donc on a grand plaisir à jouer sur cette scène-là. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à aller réserver la site. Vous pouvez le trouver des liens sur le théâtre d'Angers, enfin sur le site du théâtre d'Angers, ou alors sur le site lespasseursdelimpalpable.fr, tout attaché. Et puis après, il y aura d'autres dates, hein, parce qu'il y a cette date-là.
Mais apparemment, avec Fred, on a prévu de reparler de tout ça dans Topette. Hein, il a déjà pris ses rendez-vous.
Ça, c'est créneau. C'est bien, parce qu'effectivement, on en a dès novembre, il y en aura 2 autres. On fait même l'ouverture de la salle Hugo Frey à Saint-Clément-de-la-Place, qui ose mettre de l'improvisation en ouverture de la saison. C'est leur première saison théâtrale à Saint-Clément-de-la-Place, ils n'en avaient pas avant. Et donc, on va y aller avec l'enquête 1920 aussi. Là-bas.
Bon, en tout cas, si Louis Alphonse nous fait le plaisir à chaque fois de nous faire de la musique dans Topette, tu es toujours le bienvenu. Tu pourras
avec
en revenir
plaisir, hein.
Avec grand plaisir. Découvrir la compagnie des passeurs de l'impalpable demain. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, Tim. Tim, tu gardes tes doigts au chaud là. Tu auras 2 minutes si tu veux pour faire une petite impro. Éventuellement, s'il nous reste un peu de temps musicalement. Juste avant, je repars du côté du Sco Hockey. Ouais. Apparemment, là, on est en train de réfléchir, Paul, Emmanuel, sur les dates qu'il faut annoncer. Il va se passer des choses. C'est quoi les dates importantes à retenir du côté du Sco Hockey Gazon, Emmanuel?
Alors, merci les garçons pour votre prestation. J'ai beaucoup aimé, c'était hyper fluide, j'étais passionné et j'ai envie d'aller vous voir à Chabrol. Hein. Ça, c'est clair. Alors, pour revenir à nos moutons, en termes du Sco Hockey, la prochaine échéance, c'est le 20 octobre. On a un double match, à savoir qu'on a notre équipe réserve qui joue le matin à 10h contre Nantes. Donc, c'est le gros bébé, effectivement, de la région. Et ensuite, notre équipe première joue contre le Villa Pimerose, une équipe de Bordeaux, qui est actuellement en haut de tableau. Et nous, on est plutôt ventre mou pour l'instant. Il faut qu'on fasse, qu'on montre nos performances et qu'on fasse tomber quand même les Bordelais.
Eh ben, on compte sur vous. On s'y est informé, bien évidemment. Merci beaucoup, Paul, Emmanuel, Jocelyn et Antonin du Sco Hockey. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rajouter rugby après ça, mais Sco Hockey sur gazon, bien évidemment.
C'est des copains, les rugby. Hein, ils ont un peu la même philosophie de fête, d'engagement, etc. Ça me choque pas du tout, au contraire.
C'est pour ça. Vous êtes toujours les bienvenus, en tout cas. On pourra se revoir d'ici la fin de saison. Et puis, tenez-vous informés aussi dans l'agenda, dans la minute sport de Paul, on va partir avec la bouteille aux 3 quarts vide de Tonton Albert, mais juste avant, Louis Alphonse, si tu veux, en 30 secondes, une minute, nous accompagner musicalement pour se dire au revoir et puis à demain.
L'histoire est un papillon qui naît sous vos yeux. ses ailes brûlent de toutes les couleurs, mais son âme est toujours bleue. Mais son âme est toujours bleue. Il tisse les courants de l'air, sa danse si belle, si belle. Le papillon est éphémère, son histoire éternelle, son histoire éternelle.
Bravo, merci beaucoup Louis-Alphonse. Allez, on se dit à demain 18h10 sur le 101.5 FM et on retrouve Tonton pour sa bouteille aux trois quarts vides. Dis-moi Tonton, on dirait que tu as changé la texture de l'emballage de ta bouteille.
Ah, tu as remarqué. Et d'ailleurs, tu noteras que ça ne sonne pas comme d'habitude.
Oui, c'est franchement désagréable à l'oreille.
Je ne te le fais pas dire, mon jeune ami. Et s'il n'y avait que pour les oreilles que ça posait problème. Car le plastique, ça n'est pas, mais alors pas du tout, fantastique, contrairement à ce que racontait une imbécilité de chanson abondamment diffusée sur les ondes dans les années 90.
Tu pars donc en guerre contre le plastique, Tonton ?
Je crois qu'il est même temps de décréter la mobilisation générale. Car, vois-tu, j'ai eu connaissance d'une étude scientifique qui met en évidence une augmentation considérable des teneurs mondiales de microplastiques dans l'environnement. Jusqu'ici, tu me diras rien que du bien banal. L'environnement a toujours joué le rôle de poubelle pour l'humanité. Il n'y a pas de raison que ça change. Sauf que depuis peu, l'on a franchi une nouvelle étape.
Tu veux dire que les scientifiques s'inquiètent maintenant pour notre santé, c'est ça ?
Tout juste. Ce garçon est décidément brillant. Oui, Pierre Benoît, l'accumulation de plastique dans l'environnement induit un transfert de celui-ci sous forme de résidus dans pratiquement tous nos organes. On s'était habitué à en trouver dans le foie ou les reins, les épurateurs naturels du corps. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que l'on en a identifié dans le cerveau. Petit rappel. Élaborés à partir du pétrole, les plastiques colonisent le quotidien des modernes que nous sommes, et même celui des bestioles, du plancton au cachalot, qui n'en utilisent même pas quand ils font leurs courses. Et de leur fabrication à leur mise à la décharge, des quantités phénoménales de produits chimiques toxiques sont ainsi libérées dans l'environnement. La décomposition fait ensuite son effet, réduisant sur le long terme tout emballage plastique sous la forme de minuscules particules. Des particules qui ont alors la taille requise pour s'infiltrer dans l'eau et les sols et s'accumuler durablement dans la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, pour ceux qui ne le sauraient pas, n'a rien à voir avec les émissions de télé-réalité. Ainsi, nous ingérons et inhalons constamment des microplastiques sans même nous en rendre compte. Les chercheurs états-uniens de l'Université du Nouveau-Mexique qui ont mené l'étude dont je vous cause sur une ribambelle de cadavres humains ont ainsi montré que les tissus cérébraux contenaient jusqu'à 20 fois plus de plastique que les autres organes étudiés. Et l'accroissement s'avère significatif puisqu'il représente une concentration supérieure d'environ 50% par rapport à ce qui avait été révélé lors d'une étude similaire en 2016. En seulement 8 années, nos pauvres cervelles ont donc enrichi leur stock de plastique d'une bonne moitié. La peur d'en manquer, va savoir. Sur ce plan-là, on est même largement supérieur à l'inflation. Un cerveau humain de 2024 contient en moyenne 0,5% de plastique dans son poids total. On me rétorquera que l'écrasante majorité du cerveau reste naturelle. On savait que le cerveau était une véritable éponge capable de capter et de stocker les plus invraisemblables sottises. Voilà que l'on apprend qu'il diversifie ses approvisionnements. Et une question me vient spontanément à l'esprit.
Laquelle, Tonton ?
Eh bien, ce plastique qui s'en vient tapisser nos petits neurones va-t-il accroître notre réceptivité aux messages coca-colesques en tout genre ? Autrement dit, notre temps de cerveau disponible va-t-il évoluer en fonction de la concentration en plastique contenue sous notre boîte crânienne ? Les modifications opérées dans notre cortex à coup d'injection de polyéthylène vont-elles nous rendre encore plus perméables à la réclame ? Car si c'est le cas, tu vois, Pierre-Benoît, l'ampleur du marché qui s'ouvre pour nos amis publicitaires. Un nouvel Eldorado, rien de moins. Le progrès en marche comme d'habitude. Et puis, gros avantage aussi en ce qui concerne la chirurgie du cerveau, plus besoin de réaliser des lobotomies. Le plastique va s'en charger. Il suffit de se montrer patient. Et patient, c'est bien ainsi que l'on qualifie celui qui tombe entre les griffes de la médecine, non ? Remarque, c'est aussi le cas de celui qui attend un hypothétique TER sur un quai de gare. Mais revenons à la dégénérescence de nos petits neurones. Ainsi, je me dois de signaler que les scientifiques ont observé chez les personnes décédées à la suite d'une démence bien plus de plastique que dans le cerveau des sujets sains. Encore un hasard. Et même si le lien entre dinguerie et accumulation de plastique dans les tissus cérébraux reste à prouver scientifiquement, une chose est certaine, la notion de plasticité du cerveau n'a jamais été aussi vraie.
Pire les marécages, ouverte la porte de la cage, on vole le toit, oh vole-moi, ouvre-toi sans rancœur, ouvre-moi sans pudeur, découvre-moi avec douceur. Sur